LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Renouveau du cinéma marseillais, Massilia Guerrilla, épisode 4, Nos vies, nos stories. Si la jeunesse marseillaise est impatiente d'exister, faire des films personnels, raconter leurs propres histoires sans attendre la validation des institutions, Marseille se transforme depuis l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Des lieux de formation se créent pour rendre accessibles les métiers du cinéma à tous les Marseillais.
Voilà, les bras le long du corps, les jambes. Anna allonge bien les jambes, respiration ventrale, on inspire avec le nez, on expire fort avec la bouche. Voilà.
On retrouve la réalisatrice Sabrina Nouchi, rue Château-Payan dans le 5e, à l'école de la fabrique de l'acteur, qui forme chaque année, depuis 7 ans, près de 80 jeunes comédiens aux techniques de l'acteur studio.
Alors, c'est une formation qui est basée sur la méthode acteur studio, entre autres, et la méthode Meissner. C'est une formation qui mélange plein de méthodes organiques, c'est-à-dire où on essaie de trouver le jeu sincère. On travaille essentiellement la palette émotionnelle des comédiens, leurs croyances immédiates, monologue intérieur, tout ce qui est l'outil, l'instrument de l'acteur. Et ensuite, on le met en application sur des improvisations, des textes. Le but, c'est toujours de trouver le jeu le plus sincère possible, le plus organique, et de rien surjouer, de rien fabriquer, de rien jouer.
Ok, la colère, c'est parti. Donc, colère contenue, mais furieux. Donc, ne criez pas, mais contenue. Avec la souris verte. C'est parti, action. Audrey.
Je veux que tu aies envie de tout casser. Serre les poings. Je t'ai pas dit, tiens tes mains, serre les poings, serre les abdos, le souffle court. Serre les dents, serre la mâchoire. Action.
Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la...
Le texte a un sens, même si c'est une souris verte. Parce qu'il n'y a pas de monologue intérieur, que ça marche pas.
Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Ça fera un escargot tout chaud.
Mouais.
Mouais.
Léna.
Pas fou. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud.
Enzo.
Une souris verte. Courir dans l'herbe. Je la regarde dans les yeux. Je suis ouf.
On s'en fout, hein. Personne.
Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'eau. Trempez-la dans l'huile. Ça fera un escargot tout chaud.
Bah, au moins, lui, il s'est fait une histoire. Et il a un vent. Voilà quelqu'un qui travaille. Inspirez-vous. Ursula.
Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud.
Voilà, là, il y a du monologue intérieur. Je sais pas ce qu'elle dit, mais j'ai compris, quoi.
Alors, je m'appelle Ursula, je suis actrice. J'ai fait avant la fabrique de l'acteur les cours Florent en comédie musicale. Du coup, je suis chanteuse et danseuse aussi. Et j'habite à Marseille.
Qu'est-ce qui est différent ici par rapport à d'autres écoles pour toi ?
Alors franchement, c'est le niveau d'exigence qui fait du bien pour travailler. Ça nous pousse à nous investir à 100%, là où je n'ai pas retrouvé ça avant dans mes autres formations, où des fois on pouvait un peu être laissés à nous-mêmes, aller chercher des trucs par nous-mêmes, et ça pouvait être compliqué. Là, on est accompagnés vraiment de manière assez profonde, et ça, c'est génial quand même.
Du coup, je m'appelle Thomas Lemaire, et je suis en deuxième année de formation à la Fabrique de l'Acteur. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la Fabrique, c'est que non seulement c'est un peu, en quelque sorte, ma première famille du cinéma, et plus que de nous enseigner l'aspect technique du métier d'acteur, on apprend en quelque sorte à se redécouvrir quelque part. On apprend un peu à se retrouver en tant que... à retrouver l'enfant intérieur qu'on avait en quelque sorte, à un peu déconstruire tout ce qu'on a amené à créer vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. C'est que des habitudes de vie qui nous rend un peu plus seul avec le temps. Du coup, on apprend un peu à redécouvrir d'autres gens ici. Et ça m'a fait beaucoup du bien, en tout cas, personnellement.
Et c'est quoi les blocages qui se débloquent ici?
Alors, c'est vraiment le dépassement de soi. C'est fou, tu rentres en première année, tu te dis « Ah non, je peux pas faire ça. Je sais pas, je vais te dire une bêtise, passer devant tout le monde, se sentir hyper sexy, faire une gestuelle très féminine ou quoi. » C'était pas mon truc, par exemple, à la base. Et en fait, on va déconstruire plein de choses et tu te sens capable, finalement, d'incarner... tu peux tout incarner, quoi. Tu viens casser un peu ta timidité, etc. La honte, ouais. Et franchement, des fois, d'aller chercher des choses et de le représenter devant pas mal de monde, ça peut être compliqué. Et là, finalement, en quelques mois, on a réussi à surpasser ça.
Du coup, je m'appelle Anna Hartmann, j'ai 21 ans. Et c'est ma deuxième année ici. En fait, c'est une technique qui va beaucoup se rapprocher des techniques russes qu'ils apprennent au niveau de l'acteur studio, dans le réel, et surtout dans aussi, par exemple, la relaxation qu'on fait à chaque fois. C'est pour notre corps, c'est notre outil de travail, au final. Donc c'est très important d'allier les deux et de pas ignorer ça, en fait, au final. Et je dirais qu'il y a beaucoup de frustration quand on n'ose pas et quand on a ces barrières, finalement, qu'on a tous les jours, en fait, cette carapace qu'on a pour fonctionner dans la société. Là, on te l'a dit de tout enlever, de te mettre à poil, et c'est très intimidant au début, ça fait très très peur. Mais au final, on est très vite frustré quand on le fait pas, en fait. Et c'est magique.
Ok, maintenant vous allez me raconter un truc horrible, mais horrible, mort de rire. Ursula ?
Franchement, je sais pas quoi raconter d'horrible. La dernière fois, il y avait un mec miskin, il mangeait son sandwich, il s'est pris une balle perdue. Alors que ça se réglait à côté des comptes. Ça fait chier quand même, ce monde de merde.
Ok. Mais en faisant cet exercice, il y a un truc qui vous aide là-dedans, qu'il faudra repérer pour vos scènes. C'est souvent quand tu prends le contre-emploi de ce que tu es en train de dire, ça donne quelque chose de toi de très bizarre, tu vois. De malaisant, de psychopathe, de elle est malaisante, toi tu faisais un peu plus psychopathe, Romain, tu vois. Ça donne quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il faut souvent penser au contre-emploi. De pas forcément ce qu'on attend pour donner un peu de truc, si tu veux donner une allure intéressante à ton perso. N'hésite pas à aller là-dedans, à aller dans un truc où on ne s'attend pas à ce que tu la racontes comme ça. Là, on s'attend à ce qu'elle chiale si elle raconte ça, tu vois. Et là, d'un coup, elle se marre. Qu'est-ce qui se passe?
Et c'est quoi le plus difficile à débloquer chez ces jeunes comédiens?
La comédie.
Sabrina Nouchi.
Le plus difficile, c'est la comédie, c'est le sens du rythme. La comédie, c'est quelque chose... soit naturellement, tu as un sens du rythme et de la rupture, soit il faut que tu l'apprennes. Et on va dire l'intelligence émotionnelle. Il y en a qui en ont une grande, ce qu'on va appeler le talent. Qui en fait n'existe pas, hein, c'est juste une intelligence émotionnelle plus élevée. Et t'en as qui n'en ont pas du tout, ou très peu, et donc ça se travaille. Et l'intelligence de jeu aussi. T'en as qui sont très pauvres en intelligence de jeu, mais souvent c'est parce qu'ils ne regardent pas de films. Dès qu'ils commencent à être cinéphiles, ce qui devrait être logique pour un acteur en vrai, ça y est, ça commence à se développer un peu plus.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Tu me fends le cœur! Tu me fends le cœur! Oh! Viens là! Ah, encore de joindre plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me prend le cœur, à toi, il te fait rire, à toi, il te fait rire.
Ah, il est là, le voleur. Je peux pas me le voir, il me dégoûte.
Vraiment, je viens d'arriver.
Et il était pas en cours, ton fils, c'est un qu'il enchaîne, hein. C'est un gros mytho, hein.
Vous allez pas me casser la tête, là, par contre.
J'étais à l'école, maman.
Mais pourquoi tu la manipules comme ça, voilà?
C'est quoi votre taf à vous, là? Vous êtes toujours blindé, vous, hein.
Tu veux savoir c'est quoi?
Ouais. Vas-y. J'aimerais bien.
Si j'ai brisé des portes, c'est que tu m'as donné la force qu'il me fallait. Tu m'as dit, ma fille, regarde, je porte le monde sur mes épaules en passant le balai. Tu m'as fait gommer les chiffres de toutes les horloges de la TC.
Oui, maman, s'il te plaît.
Ça va pas durer. Je vais partir, je vous abandonne.
Tiens, maman, c'est pour payer l'avocat.
C'est pas d'argent haram, ça.
Assure.
Je vais jamais me faire rentrer de l'argent haram chez moi. Ça va aller. Tant que je suis debout, je resterai solide.
Ça va?
Bonjour Pascal.
Ça va?
Ouais. Vous allez bien?
Alors bonjour Jean-Marc Coppola, maire adjoint à la culture à Marseille. On est à côté de la mairie, au Vieux-Port.
Bienvenue en tout cas à Marseille, malgré le Mistral.
Donc est-ce que vous pouvez nous parler de la politique culturelle concernant le cinéma depuis que vous êtes arrivé aux manettes en 2020?
Ben écoutez, d'abord on a établi une politique culturelle qui n'existait pas forcément, c'est-à-dire avoir un peu des axes sur le développement de la création, le développement de l'éducation artistique et culturelle, surtout chez les plus jeunes enfants, parce que c'est à cet âge-là, et on a aujourd'hui des actions en direction des bébés, même en crèche, et donc c'est assez fabuleux. Et puis je me suis aperçu que parmi tous les arts, le cinéma manquait, dans le sens que la ville de Marseille n'a pas de compétences en termes de cinéma. Ce n'est pas la région qui peut soutenir des productions, donc c'est plutôt l'accueil des tournages. J'ai dit, ben, écoutez, le cinéma c'est certes une industrie et une économie, mais c'est d'abord un art. Et en fait, on a travaillé, il y a eu, une petite aubaine, c'est que effectivement le président de la République souhaitait hisser la région au premier rang de l'industrie cinématographique, et donc ça nous a permis de travailler plus en intelligence avec l'État, avec les autres collectivités locales, voire même avec le privé. Et c'est comme ça que, à partir des atouts que nous avons à Marseille, eh bien, nous avons développé des projets autour de la modernisation du pôle média, la base logistique, et puis la création surtout d'une cité régionale et méditerranéenne du cinéma, avec une antenne de la Cinémathèque française, et puis la formation Cinéfabrique. Aujourd'hui, ben, Marseille est un peu incontournable au niveau du cinéma, puis tant mieux, sans que la ville elle-même mette beaucoup d'argent, parce qu'on a d'autres priorités, les écoles bien sûr, mais aussi bon, tout ce qui concerne la culture, les théâtres, l'opéra et puis tous les autres arts.
Alors, vous disiez que vous étiez limité au niveau du budget culture, notamment avec l'opéra.
C'est-à-dire que bon, on a un budget, d'abord on a un budget culture qui est le troisième budget de la ville, le premier étant bien sûr l'éducation, ensuite la tranquillité publique et ensuite c'est la culture. Un budget, j'en suis fier, qui progresse depuis 2020 chaque année. Et donc, ça montre les efforts. Mais effectivement, dans ce budget, il faut faire des choix parce que, bon, on a un opéra qui est municipal et donc qui coûte très cher. C'est un budget de 26 millions, l'opéra de Marseille, l'opéra municipal de Marseille. Et la ville participe à hauteur de 20 millions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune participation des autres collectivités, alors que c'est un opéra quand même métropolitain ou en tout cas à vocation régionale. Et puis l'État met très peu, 400 000 euros. Quoi. Donc voilà, quand on englobe ça, et c'est un, bien sûr l'art lyrique, c'est un art qu'on veut continuer de développer, transmettre aux enfants. Mais après, il reste des tas de choses à faire dans tous les autres arts. Je suis effectivement très attaché par l'éducation artistique et culturelle. Boris Cyrulnik dit « c'est dans les 1000 premiers jours depuis la naissance que commence à se construire la personnalité ». Eh bien nous le faisons. Et d'ailleurs aujourd'hui, des observateurs non des moindres, puisqu'ils regardent plutôt les finances, comme la Cour des comptes, dit « mais qu'est-ce que vous faites en termes d'éducation artistique et culturelle ?» Ils ont été assez agréablement surpris par ce que nous faisons. C'est des actions... voilà, c'est pas électoralement porteur puisque c'est des gamins, donc ils voteront pas aux prochaines élections. Mais voilà, on sème des petites graines comme ça. Pourquoi ? Parce que on est parti du constat simplement que cette ville, c'est pas une ville pauvre, Marseille. C'est une ville, au contraire, qui a plein d'atouts, plein de richesses, plein d'énergie, mais qui est une ville très inégalitaire. Et donc, comment essayer de gommer ces inégalités ? En faisant en sorte que chaque Marseillaise et chaque Marseillais se sentent pleinement fiers de leur ville et puis avec un gros potentiel de développement où chacune et chacun apporte sa pierre. Et c'est ma conception de la culture, c'est pas simplement du divertissement, bien sûr, c'est du divertissement, mais c'est surtout de l'émancipation et de l'épanouissement.
Quartier de la Friche de Belle de Mai, ex-centre névralgique de la scène underground marseillaise des années 90, devenu aujourd'hui le lieu institutionnel incontournable d'associations et compagnies subventionnées. À deux pas des studios gigantesques de la série de TF1 Plus belle la vie, s'est installée depuis 2 ans l'école nationale publique, la Cinéfabrique. Suite à la volonté présidentielle de développer Marseille en grand, un pôle audiovisuel performant et un lieu d'apprentissage attractif se crée autour des métiers du cinéma. Nous rencontrons aujourd'hui Naoui Raoussi-Jones, réalisateur autodidacte passionné, ex-facteur de Belzunce, devenu le référent pédagogique qui nous ouvre les portes de cette école de cinéma.
Excusez-moi, bonjour, la Cinéfabrique est là ?
Ouais, grave.
Ici même, bonjour. Bon.
Je cherche Naoui.
Ah oui, Naoui, il est dans son bureau là, il a sa casquette.
Ça va, Mister ?
Tranquille, toi alors ? T'es bien ?
Yes.
Salut, Naouir.
Enchanté.
On vient de recevoir le trombi de la COP 3.
Donc c'est la troisième année.
Ouais. Et du coup voilà, là t'as la première promo, celle qui a ouvert l'école. Et la COP 2 et là la COP 3 qui sont en train de faire un module peinture et cinéma. L'école existe à Lyon depuis 2015. Avec la COP et la licence de 3 ans, et sous la volonté du président de la République, et dans le plan de Marseille en grand, l'école a ouvert à Marseille en 2022 avec uniquement la COP, et en septembre 2023, la COP 2, et ainsi que la première promo de la première année, dont Assad encore a fait partie.
En son. J'ai fait toutes les classes.
Et toi, tu viens de Marseille ?
Oui, moi je suis de Marseille. Moi, je suis du 15e arrondissement, ouais, à la base. Et j'en avais entendu parler parce qu'un de mes responsables de théâtre, en fait, faisait un sorte de workshop à Lumini. Et il m'avait parlé du projet COP Marseille, du coup, qui devait ouvrir ici. Et j'ai rencontré, du coup, Zara et Naouir, ainsi que Daria à l'époque, qui, justement, étaient, on va dire, responsables du projet. Et voilà.
Et c'est quoi, donc, en gros, l'année COP, c'est quoi, alors ?
Ben, en fait, la COP, c'est très simple. C'est classe d'orientation et de préparation, et en fait, ça a pour objectif de pas forcément nous préparer au cinéma, mais vraiment expérimenter beaucoup de pratiques artistiques, comme la sculpture, la peinture, le dessin, la danse, le théâtre, pour un peu nous orienter et voir un peu ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, pour justement nous aider à nous orienter professionnellement. Et par exemple, moi je sais que j'ai voulu intégrer la Cinéfabrique en son, du coup, mais j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Loumir, elle qui a préféré rejoindre la fac. Je sais que j'ai un autre ami à moi qui voulait faire justement lui du théâtre. Et du coup, c'est vraiment à la volonté de chacun. Genre, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. C'est vraiment on nous offre et nous on nous propose et nous on accepte et on donne en retour et voilà.
Et c'est gratuit.
Oui. Ouais, c'est gratuit. C'est une des seules. En vrai, c'est une des seules écoles que je connaisse. En tout cas, que ce soit la Cinéfabrique ou la COP, qui est gratuite.
Mourir à Ibiza 2022, réalisé par Anton Balekjian, Matteo Eustachon, Léo Couture, étudiant de la Cinéfabrique.
C'est lequel qu'on prête ?
Je suis avec le casque.
Marius.
Salut Ali,
enchanté.
Marius. Enchanté. T'es sûr que ça va ?
Ouais. Tiens, on bouge, non ?
Tout bien, c'est du grand truc, tu vois, moi je suis venue pour ce mec-là et rien, quoi, rien du tout. Marius. Avant-hier, je suis allée au port de Fécamp en longeant les falaises. Il paraît que des centaines de personnes viennent s'y suicider chaque année.
Ça va ? Oui, ça va.
Et donc, t'étais.
Je suis désolée, voilà, qu'est-ce qu'il a toujours fait
facteur à Belzance ou...
Non, non. Oh, jamais il m'a envoyé en ville. Jamais il m'a mis en ville.
Parce qu'il donne. Toi, tu viens de Belzance.
C'est ça, oui, du berceau à la tombe. Hein. De la poussette au linceul, c'est mon quartier. Hein. Ouais, je suis dans Belzance. Non, j'ai fait facteur dans le 4e arrondissement.
Nawir Aoussi Jones.
C'était pas mal résidentiel, ça faisait petit village, maison individuelle, il y avait la cave à vin, et c'est le caviste qui m'a fait découvrir Guédiguian, tu vois. Il vient me dire, oh mais non, mais il me dit, tu fais des films et tout. Je fais, ouais, je m'essaye et tout. Il me dit, tu fais ça avec tes potes. Je fais, ouais, ouais. Il me dit, ah, tu connais pas Guédiguian? Je fais, non. Il me dit, c'est un mec de l'Estac qui tourne avec sa même bande de potes, je sais même pas s'il les paye. Il me dit ça, il me dit, je pense qu'il paye même pas. Ça fait 40 ans, 45 ans, ils tournent ensemble. J'ai fait ok. C'était en 2011 et il sortait Les Neiges du Kilimandjaro. Ça tombait bien, en mai, je vais le voir en salle et tout. Et je me dis, pétard, je me mate du coup toute sa filmographie. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il tourne toujours avec les mêmes acteurs, sa femme, ses meilleurs amis. Et je me dis, en fait, c'est ça, c'est le cinéma que j'aime faire. C'est le cinéma que je fais, social, politique, ancré sur un territoire, Marseille. J'ai beaucoup tourné en centre-ville. Sur des thématiques telles que, je sais pas, gentrification, avec des acteurs professionnels, amateurs, beaucoup d'amateurs, semi-professionnels. Et du coup, voilà, c'est ça, raconter Marseille à travers ses habitants.
Et t'as fait une série, tu peux nous en parler un peu de ta série?
Oui, qui s'appelle La Dernière Année. C'est une série politique dont l'intrigue se déroule durant... Initialement, l'intrigue s'est déroulée durant l'entre-deux-tours des élections municipales. En fait... En 2018, quand Godin, l'ancien maire, a annoncé qu'il ne se présentait pas aux prochaines municipales, je me suis dit que ça allait être un événement, on va dire, inédit, retentissant, et qu'il fallait marquer le coup en réalisant une série sur cet événement-là. Peu de temps avant, il y avait eu les tristes effondrements de la rue d'Aubagne, et j'avais pas mal bossé dans des écoles du 3e arrondissement, délabrées, insalubres. Et du coup, le postulat de base de la série, c'était, à la veille du premier tour des élections municipales, un plafond s'effondre dans une école du 3e arrondissement, tuant un élève de CP et laissant l'institutrice dans un état d'urgence absolue. J'en parle là, mais avant-hier, j'ai mon ancien, l'ingé son qui a fait tous mes films depuis 10 ans, il est passé, il me dit, mais pétard, ça fait longtemps, tonton, on n'a pas tourné et tout. Et moi j'ai arrêté, moi. Pour moi, j'ai pris ma retraite, ça y est, je suis parti sur d'autres trucs, mais j'ai le petit pincement au cœur quand je repense à toutes les aventures qu'on a vécues pendant 10 ans sur les différents films. Je me dis, pétard, tu as vu, tu tournes à l'extérieur, les gens voient une caméra, ils s'arrêtent, qu'est-ce que vous tournez? Moi, je suis comédienne, si vous avez besoin, je suis un gisson, je suis caméraman, je suis un chef-op, il se passe. On rencontre du monde de malade à Marseille. Quand on tourne à l'extérieur, dans le métro, on tourne, mon frère, il déteste ça. Il me dit, oh, mais tu crois que c'est le métro de maman ou quoi? T'es là, tu dis à tout le monde, bonjour tout le monde, nous tournons un film, ne faites pas attention, les gens te suivent en plus. Mais toi, t'es là, t'as tes aises, tranquille, le mec, il est là, calé, il déteste ça. Mais c'est tout, les gens, ils s'arrêtent entre deux arrêts, bam, tenez ma carte, mon numéro, mon Insta, je tourne ceci, je suis comédien ou autre. Et franchement, c'est ça qui manque, cette spontanéité à Marseille quand on tourne. Même les flics s'arrêtent, qu'est-ce qui se passe, vous tournez quoi? On n'a aucun souci. Franchement, c'est le top. Vraiment, vraiment.
Et alors, du coup, tu nous fais une petite visite, là?
Yes.
Donc, ta déco, il y a quoi d'autre?
Il y a images, son, scénario, production, montage. Et les deux nouvelles depuis 2 ans sont plateau de décoration et VFX. Là, c'est les premières années.
Salle de montage?
En fait, c'est ce qu'on appelle la salle multimédia. Et en gros, la salle multimédia, comme vous le voyez, là, c'est une salle de projection et qui fait également office de salle de montage. Il y a environ 20 ou 24 postes de montage. Et là, les premières années, on fait la semaine dernière et la semaine d'avant de l'initiation image et son. Ils ont avec des anciens élèves de la Cinéfabrique qu'on appelle les pépins et qui viennent fréquemment prodiguer des cours et driver les nouveaux venus.
Donc là, ils font du montage?
C'est ça, du montage. Ils ont tourné, je pense, de la fiction, des séquences de fiction, et ils ont aujourd'hui pour monter et diffuser certainement en fin de journée.
Le grand ça, blanc sur les côtés.
Ouais, ou non, c'est pas utile.
Je sais pas lequel c'est.
Ah, tu fais ça.
Moi je trouve un peu naze.
Ouais, moi aussi, mais je suis
pas sûr.
Moi c'est Ibrahim Swabou, je suis en section image deuxième année.
Tu viens de Marseille ?
Bien sûr, je viens de Marseille, ça fait 2 ans. Je commençais une prépa d'abord, et ensuite la prépa de Marseille. Et là, j'ai passé la Cinéfabrique cette année. Quoi.
Tu veux devenir chef op ?
Bah ouais, exactement, comme le rêve de tous ceux qui travaillent dans l'image, quoi, c'est d'être chef opérateur. Et après, d'abord, il faudra scier les objectifs, commencer au plus bas, quoi. Donc,
tu fais quoi là ?
Voilà, on fait du montage sur Avid, un logiciel très très complexe. Donc c'est la première fois que je fais la manie là, et c'est toute une galère.
Nous allons. Fais la bousiane, viens. Devant. Viens, c'est pas filmé. Avec Fela Bouziane, qui est une élève de première année et qui a fait la COP 2 l'année dernière.
Et qui vient de Marseille.
Ouais. Qui vient de Marseille, talent pur de Marseille. Non, mais c'est vrai, faut reconnaître.
T'as grandi où à Marseille ?
J'ai grandi au Merlan. Oui, vas-y, viens. Voilà, parce qu'en fait, de base, on bossait. Mais j'ai grandi, dans les quartiers nord à Marseille, pas très loin du Merlan. Voilà.
Et donc, t'as fait la COP l'année dernière ?
C'est ça, je suis sortie du lycée et j'ai voulu me lancer dans un truc artistique, mais je me connaissais que dans le théâtre et j'avais besoin de voir autre chose. Et du coup, c'était la bonne occasion parce qu'à la COP, on a fait plein de trucs. C'est un peu le principe de la Cinéfabrique, c'est que tu touches à tout, comme ça, quand tu seras dans ta spécialité, tu seras complètement conscient et consciente des enjeux des autres pôles, en fait, et on deviendra un peu plus indulgent, quoi.
Tes parents, ils ont dit « Vas-y, fais du cinéma, tranquille. »
c'est
compliqué.
Non, c'est compliqué. Mais j'ai négocié de ouf. Et puis, ça l'a fait parce que j'ai eu mon année de COP et que je leur ai montré que même si c'était hyper compliqué, que j'avais jamais fait ça avant parce que j'ai plutôt un profil de droit et de Sciences Po, ils pouvaient me faire confiance à ce niveau-là parce que vu qu'on passe vachement par la pratique et qu'on rencontre des gens et que ces gens-là sont des professionnels, et du coup, c'est vachement rassurant, quoi, de savoir qu'à la fin, là, au bout de mes 3 ans, je vais pouvoir faire quelque chose et avoir mon taf, quoi.
Alors, on est devant l'association Phare et Balise, qui se situe entre le port de la Joliette et la cité Félix Piat. C'est en bordure de centre-ville, c'est le début des quartiers nord. Et on est devant l'association Phare et Balise qui organise un atelier d'écriture de scénarios avec une dizaine de jeunes, des néophytes, qui vont s'initier à l'écriture pour écrire un court-métrage.
Bonjour.
Alors, on va avoir Tarek qui va pitcher le film de Samuel.
Ok. Samuel, c'est un jeune Marseillais de 17 ans qui a toujours, depuis tout petit, rêvé de faire du cinéma, de la musique. Malheureusement, il a vite appris que la famille, c'est une société qu'on t'impose. Il a compris ça parce que tout le monde lui mettait des bâtons dans les roues. Son père, sa mère, ses frères et sœurs. Et ça l'a vraiment démoralisé. Un jour, il s'est rendu compte que... il était capable de faire ça. Et ce qui est beau, c'est que c'est des personnes qu'il connaît même pas. Des artistes, des rappeurs, des acteurs. Ça a animé en lui et ça a réveillé la flamme que sa famille avait essayé d'éteindre. Donc il a continué, il s'est battu. Et ça l'a amené sur un nouveau chemin que vous allez tous voir dans le film.
Ok. Voilà, t'as trouvé le truc, ça donne grave envie.
tu vois.
D'accord.
Il y a peut-être juste sur la caractérisation de ce personnage qui, alors, il a envie, c'est son rêve, et aussi il bouffe du film en permanence, tu vois. Et ça, c'est un élément super important, c'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup la phrase d'un acteur ou la phrase d'un rappeur qui va lui tomber dans l'oreille, qui va se dire « ah oui, c'est ça », c'est que c'est sa vie, en fait, à ce gars-là, tu vois ce que je veux dire, et qu'il est nourri de ça. Voilà, c'est l'élément qui manquait, en fait. Mais sinon, c'était super.
Morgane, c'est une Marseillaise pure souche qui a vécu le beau Marseille que tous les Marseillais pure souche ont connu et qui a vu Marseille se transformer à l'époque du Covid et après, et qui a été envahie par les néo-marseillais dont je fais partie. Et qui se désole en fait de voir plus. En fait, elle n'est pas contre les néo-marseillais, mais elle est contre ce genre de néo-marseillais qui est venu acheter en masse dans des quartiers un peu, enfin qui étaient un peu sous-cotés à l'époque, qui gentrifie par la force des choses le quartier en mettant par exemple en place des restaurants inadaptés, notamment à la rue d'Aubagne, un restaurant qui propose des menus à 60 €. Quand on vit à Marseille, on sait que le quartier, c'est des menus à 8 €. Mais pas que, ils achètent en masse l'immobilier et du coup, les purs Marseillais ont de moins en moins d'opportunités déjà de se loger, mais encore plus d'acheter. Donc c'est désolant, en fait, de venir à Marseille et s'approprier comme étant sa ville, en s'appropriant également l'accent, en jouant, comme certains, de l'accent africain ou autre, de l'accent marseillais. Par exemple, si je dis « tarpin bien » ou « un poing », alors que je ne suis pas marseillaise, c'est vraiment se moquer de l'accent marseillais. Donc Morgane, elle veut redonner du sens à ce qu'elle voit et redonner son blason d'or à Marseille. Et montrer ce qu'a été Marseille, ce qu'il est en train de devenir par la faute de certains, et demander à tous de veiller à conserver l'identité forte de Marseille, cette ville rebelle qui fait peur à beaucoup de monde, mais que tout le monde finit par aimer.
Cet exercice vous permet de savoir les informations qui sont importantes de votre film, qui sont passées à la trappe, ok. Quand vous entendez les autres, ça vous a probablement donné des clés ou des idées ou renforcé des choses.
Fares Wafi.
Pour moi, tu attires ce que tu as dans la vie. Moi, j'ai un rapport très philosophique avec tout ce qui m'entoure. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis dans un tournage. Dans ce tournage, j'ai rencontré Tarek, qui est devenu mon frère. Tarek qui m'a ramené ici, c'est un effet boule de neige. Moi, de base, j'ai commencé par le stand-up. Ouais. Et là, je fais pratiquement plus de stand-up. Et même mon écriture, j'écrivais de l'humour de base. Et maintenant, j'écris plus du dramatique.
Tarek Bourenan. Comme Fares l'a dit, à l'époque, j'écrivais des films tout seul, sans savoir que j'écrivais des histoires. Et j'étais persuadé qu'il fallait pas que je lâche et qu'un jour j'allais rencontrer des gens qui s'y connaissent. Et j'étais dans un bar en train de siroter ma grenadine et j'écrivais. Et je me dis ne lâche pas, commence le chantier tout seul. Et si vraiment c'est fait pour toi et que tu es sincère, ben des gens vont venir autour de toi et t'aider. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je considère que ces ateliers écriture, c'est un luxe, c'est même pas de la chance parce que je crois pas en la chance. Mais c'est un luxe qu'il faut vraiment utiliser à bon escient, il faut être sérieux. Et il faut récupérer toutes ces clés pour s'en servir toute notre vie parce qu'il va falloir laisser la place des fois aux autres qui n'ont jamais fait d'atelier d'écriture et il va falloir se débrouiller tout seul des fois.
Samia Zribi.
Alors moi je suis plus âgée que la moyenne là. Donc je m'appelle Samia, j'ai 40 ans depuis peu. Et je viens de la ville du cinéma des Frères Lumière avec plein de préjugés sur le cinéma. Parce qu'à Lyon je n'ai jamais rencontré le cinéma dans sa structure, sa construction. C'est très gentrifié, justement. Et à Marseille, on m'a ouvert les portes et j'ai rencontré Movida par un riposte sur Instagram qui proposait le stage d'écriture de scénario. Et puis, étant donné que je considérais que c'était un milieu fermé, bien que j'avais réussi à faire du bénévolat dans le milieu, je me suis dit, bon, bah, on postule, puis au pire, ils me diront non. Et en fait, ils m'ont dit oui. Donc, je suis venue, j'ai rencontré Vivara. Et elle m'a montré qu'il était possible d'écrire et que, en tout cas, à Marseille, on vous proposait tous les outils pour pouvoir construire dès lors que vous aviez l'envie et l'inventivité. J'y rencontre plein de gens qui ont des parcours différents et je trouve autant de richesse à puiser chez les plus âgés et les expérimentés que chez les jeunes qui sont pleins de vivacité et pleins d'envie et pleins d'inspiration. Et donc, du coup, grâce à ça, c'est mon deuxième atelier résidence et je suis enfin passée à l'acte de l'idée à écrire. Et grâce à tout ce qui s'est passé cette semaine, j'ai enfin concrétisé mon idée très concrètement. Et voilà.
En fait, en 2021, j'étais un peu perdu. J'avais un petit appartement à la frontière belge. Je ne sais pas ce que je faisais dans ma vie. Donc j'ai commencé à écrire. Et j'ai réalisé un film, un long métrage. J'ai peut-être 1h40 d'images. Je l'ai réalisé sans scénario. Je l'ai réalisé avec le scénario, il était dans ma tête. Juste un petit synopsis sur un papier. Et j'ai engagé un caméraman, je l'ai payé 3000 euros. Je lui ai payé ses billets de train, son hôtel. Et j'ai dit, vas-y, on va réaliser. Et après, je donnerai 10 000 balles à un cinéma et il me l'affichera. Je pensais que c'était comme ça, le cinéma. Et après, j'ai appris que c'était pas du tout comme ça. Grosse désillusion, dépression. Et j'ai dit, je peux pas tout recommencer parce que c'était l'enfer de réaliser seul. Et au final, j'ai compris que je pouvais être aidé, je pouvais avoir des personnes et une équipe autour de moi et que la réalisation d'un film, c'est pas que le réalisateur. C'est du producteur jusqu'au figurant. C'est un bateau et on navigue ensemble. Donc voilà.
Donc là, tu as le projet de réaliser celui-ci ?
J'ai le projet de réaliser un court-métrage qui s'appelle La Vague pour l'instant. Et je suis vraiment motivé, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Je pense que c'est mon premier vrai projet si je le réalise.
Je m'appelle Yasmina Erafas, je suis marseillaise d'adoption. Et je suis directrice de l'association Phare et Balise depuis maintenant 2 ans. Voilà, on est ancré à Félix Piat depuis à peu près 2 ans aussi. Félix Piat, on est dans le 3e arrondissement de Marseille. Après, c'est vrai qu'on est sur un territoire où le taux de pauvreté est assez important et qui dépasse les 50%. La particularité, c'est grosse diaspora comorienne. Voilà, et on est dans un petit village de quartier. Et justement, le projet de Phare et Balise et de Movida, c'est de créer des écosystèmes où les jeunes qui n'ont pas de piston, où les jeunes qui n'ont pas le capital économique ou le capital culturel, l'environnement, eh ben, ils vont pouvoir se reposer sur cet écosystème qu'on a construit ensemble avec leurs intervenants, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des rappeurs, que ce soit des producteurs, que ce soit... Enfin, voilà.
Décline un peu les activités différentes de Phare et Balise.
Alors, chez Phare et Balise, on a plusieurs dispositifs. Un dispositif cinéma qui est Movida, qui est une académie de cinéma et de théâtre, avec des ateliers hebdomadaires, des masterclass, différents temps, des résidences. Moi, j'aime bien ce côté une semaine, on travaille et on reste dans le travail, concentré et que sur ça. On a aussi des temps de mobilité. Par exemple, on est parti à Londres jouer une pièce d'Edouard Bond, Red, Black and Ignorant, puisqu'il y a un atelier de théâtre en anglais. Il y a un atelier d'improvisation qui est le hall d'entrée où tout le monde peut venir et tout le monde peut s'exprimer
en impro
de façon très, très libre. On a une centaine de jeunes qui passent par an sur cet atelier. Et donc, c'est un peu l'entrée de Movida. Et ensuite, ils découvrent qu'il y a un atelier théâtre en anglais avec une pièce qui va être jouée et qu'il y a aussi un atelier perfectionnement avec Raymond Dicoumé. Et là, on est plus dans le théâtre, un peu plus sur les dramaturgies, sur l'écriture, etc. et sur la technique du jeu d'acteur. Et ensuite, on a un atelier écriture de cinéma que j'ai développé en résidence cette année, donc avec Vanessa, qui donne lieu à une écriture de scénario et à une réalisation avec une production derrière.
J'ai fait quoi là ?
Ça va, Mahlich, j'ai rien.
Comment ça, Mahlich ? Mahlich, ça bien, Mahlich.
Mahlich, Mahlich, réalisé par Annie Gillas, 2021.
Miriam, il s'est rien passé. Ça reste entre nous et tu fermes ta bouche.
Ah, oh, ça va.
Oh, t'as pris la confiance, toi. Allez, dégage.
Non.
Oh, remballe, me rends pas fou, allez, casse-toi.
Écoute-moi bien, Karine, t'as 2 jours pour m'amener le maillot de l'OM Floki Camara. T'as 2 jours, Karine. Le short, les chaussettes, les crampons de Ronaldo. 5 Kinder Bueno, 3 Capri Sun et un Happy Meal.
Donc moi, je m'appelle Vanessa Vivara Zambernardi. Je suis monteuse, c'est mon premier métier. Réalisatrice, c'est celui qui prend le pas aujourd'hui dans ma vie. Et comédienne, j'ai toujours un peu fait ça par amusement. Ce qui me surprend le plus, c'est leur sensibilité. Je retrouve une extrême sensibilité chez beaucoup d'entre eux. Et que ça, c'est hyper touchant et que j'estime que c'est avec cette hypersensibilité qu'on peut raconter de belles choses, de belles manières. Donc c'est quelque chose à travailler avec précaution, mais vraiment à faire ressortir et à ce qu'ils puissent utiliser cette sensibilité, que ça joue plus contre eux, mais que ce soit vraiment genre pour eux et pour eux, voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas montrer, c'est quelque chose qui joue en sa défaveur. Alors que là, on leur apprend à justement l'utiliser en tant que force et que c'est une force extrême quand on apprend à l'utiliser.
Et toi, Samuel, t'as quel âge ?
Moi, j'ai 22 ans. Moi.
Ouais.
22 ans, j'ai grandi dans les quartiers nord, le 14e, les Iris, les Flamands.
Samuel Ali Hadji.
J'aime bien tout ce qui est acting, cinéma, artiste, tout ça. Ça m'a intéressé et je voulais me lancer dans ça.
Et t'as déjà fait acteur ou figurant ?
Ouais, j'ai fait un court métrage sur YouTube qui a fait pas mal de vues. On est à 64 000 là. Ouais.
Et
en tant qu'acteur principal, c'est Taciturne. C'est un grand de mon quartier en fait qu'il a réalisé, qui faisait pas mal de clips à l'ancienne. Et il a voulu se lancer dans le court métrage. Et comme il a su que je voulais devenir acteur, et ben il m'a pris dans son projet.
On a l'impression à Marseille que les jeunes, ils ont grave envie de faire des films.
Ah, c'est ça, tout le monde veut devenir acteur, tout le monde veut devenir rappeur, tout le monde. Tout le monde en voyant les artistes en fait, sur YouTube, de partout. C'est comme ça, mais moi depuis tout petit en fait, moi je suis renfermé sur moi-même, parce qu'on m'a toujours abaissé, toujours dénigré. Et quand je me renfermais sur moi-même, je regardais des films pour me remotiver en fait. Je me renfermais tout le temps. Et comme je suis fan de plein d'acteurs dans le milieu de... Américains aussi. Les acteurs américains, ils m'ont beaucoup parlé et depuis, c'est comme ça que j'ai voulu me lancer. Moi, je suis quelqu'un de stressé en fait, moi. Et de jouer devant des gens, c'est chaud un peu. Après, c'est un travail sur soi. C'est la confiance en soi en fait. Tellement on m'a trop rabaissé que je me suis mis à terre moi-même en écoutant les paroles des gens. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse en fait. Quand les gens ils te rabaissent, eh ben ça devrait être une source de motivation normalement. Eh ben moi c'est tout le contraire. Moi je me fie à ce qu'on me disait. Moi tu vas pas réussir, t'es nul dans ça, t'es vais commenter et tout, nanani, t'es maigre, tout ça, t'es gros, t'es. Voilà, plein de. Et c'est ça qui. Voilà. Après je me suis renfermé sur moi-même à cause de ça. Et je suis indécis dans mes choix aussi. Et pessimiste. Je suis pas optimiste. Mais j'essaye quand même de.
Là, t'es optimiste, là, ici.
Ouais, ben oui. Mais si je suis venu là, c'est que il y a un peu d'optimisation, un peu. Et voilà, j'espère réaliser ce que je veux dans la vie. Mes rêves, quoi. On m'a soutenu un peu aussi dans ma vie. Et que j'ai peur de... En fait, j'ai peur de les décevoir si je réussis pas, en fait. On m'a toujours dit, toi, tu es fait pour ça, tu es fait pour... Il y en a qui m'ont dit que je suis fait pour le cinéma. Et quand j'entends ça, ça me fait peur. Il y a une peur en moi qui... Je me dis, putain, je vais les décevoir si je réussis pas. Alors que beaucoup, il y en a beaucoup, mais ils se font discrets, qui croient en moi en fait. Beaucoup ne croient pas en moi, mais peu de certains gens croient en moi et j'ai peur de les décevoir en fait. J'ai peur de pas réussir.
Mais peut-être un peu trop la pression.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Je suis comme ça moi. Je suis comme ça.
Moi, j'ai 23 ans. Je sais pas si vous connaissez le Joker.
Dans Batman.
Ouais, le Joker dans Batman.
Ouais.
Ben, j'ai un peu vécu ça. Ça veut dire. C'est paradoxal, hein, mais l'humour, c'est un milieu très dur c'est un milieu éprouvant moralement. Ce qui m'a fait écrire de la poésie. Et maintenant, la réalisation. Les 2 courts-métrages que j'ai réalisés, en fait, ça m'a choqué. Genre, émotionnellement, ça m'a choqué. Genre, c'est vraiment genre une expérience. J'ai vraiment vécu ça. Et. à chaque fois que j'ai vécu ça, ce genre de sentiment, ben, c'est des trucs qui ont changé ma vie. C'est-à-dire, la première fois que je suis monté sur scène, ça m'a procuré ces émotions. La première fois que j'étais dans un plateau de tournage, ça m'a fait ces émotions. La première fois que j'ai réalisé, ça m'a fait ces émotions. Et c'est des émotions tellement fortes que c'est comme si, pendant le temps d'un instant, ben, ton cœur il explose, mais genre, il explose de bonheur. Et de là, ça dit, ah ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça de ma vie. Et après, tu dors plus. Et après, tu travailles. Après, tu vis ce genre de moment exceptionnel parce que c'est vraiment une chance qu'on a. C'est vraiment une chance qu'on a de rencontrer des gens. Ben, Tarek, c'est quelqu'un très important dans mon histoire. Et sans tout ça, ben, on ne serait pas rencontrés. Tu vois. En fait, tu apprends beaucoup sur toi-même. C'est plus que juste, on va réaliser. En vrai, d'abord, apprends à te connaître et tout. Et tout ce genre d'exercice, c'est pour ça que, on a vraiment de la chance. Et souvent, les passionnés qui sont tristes, c'est que, ils ont pas de moyens d'expression, tu vois. C'est ça qui rend vraiment triste et tout. Partager des idées, vivre vraiment de ce qu'on veut faire, échanger, tu vois, être avec d'autres personnes qui écrivent des scénarios, ce qui est, moi, dans mon environnement, ben, si j'aurais pas Movida, ben, j'aurais pas à partager avec des autres personnes qui écrivent. Moi, j'habite dans un coin qu'on appelle le Chaoui, à côté de Belzunce, tu vois. C'est un endroit où il n'y a pas forcément d'art, tu vois, et avoir la chance de communiquer, de partager, même ça me rend vivant, moi, perso. Genre, moi, j'ai commencé très tôt, et c'est pour ça que j'ai vraiment l'émotion, parce que quand j'étais petit, je m'imaginais faire ce que je fais là aujourd'hui, c'est-à-dire écrire vraiment, travailler vraiment sur ce que je veux, moi, vraiment. Et ce qui est paradoxal dans mon histoire, c'est que moi, je suis dyslexique et dyspraxique. Et j'ai arrêté l'école à 14 ans. Ma plus grande phobie dans la vie, c'était l'écriture. J'ai appris à écrire et à lire à 17 ans. Et vraiment, la plus grande angoisse que j'avais dans ma vie. Je crois que j'allais niquer ma vie parce que je savais pas lire, je savais pas écrire. Et le collègue, il était dans ma classe. Tu as vu comment j'étais, frérot? Ouais, c'était dur. C'était dur, 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 dur. L'art, ça m'a galvanisé. J'ai rencontré le stand-up à 14 ans. Et en 3 ans, j'ai rattrapé 10 ans de cours. Rien ne me prédestinait à écrire, en fait. C'est vraiment incroyable.
On repart près de la plage du Prado, dans les quartiers sud de la ville, au Delta Festival, où un village, le Monde des Possibles, expose des centaines d'associations culturelles de la ville. Ici, Imane Bessahi, la dynamique directrice du festival FIDI, valorise les films autoproduits de Marseille et du monde entier, sans la moindre aide publique, et parvient à fédérer tous les acteurs de la scène marseillaise. Imane, donc tu es marseillaise ?
Oui, Bessahi Imane, fondatrice de FIDI, le festival, du coup un festival qui met en avant les films à petit budget, voire sans budget, et une application, un réseau social pour tous les métiers du cinéma, de l'audiovisuel, que ce soit les techniciens de l'image ou du son, des acteurs, des studios, du matériel, etc. Et même aussi un profil particulier qui aurait juste la curiosité de savoir à quoi ressemble un peu le métier du cinéma, de l'audiovisuel, etc.
Là, on est où, là ?
Là, on est au Delta Festival, donc où j'ai un stand en tant que partenaire avec le Delta et à qui je parle à des jeunes qui s'intéressent au cinéma mais qui ne savent pas forcément comment y accéder.
Et des stands.
Il y a le stand, du coup, des Mondes des Possibles. Donc, il y a plusieurs villages. Il y a le village de la start-up, il y a le village des arts, le village de l'environnement. Et du coup, FIDI est dans le village des arts.
Alors, FIDI, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que ça veut dire? Donc, FIDI, c'est l'acronyme de Fuck it, I do it. En gros, je m'en fous, je le fais, envers et contre tout. Et FIDI, parce que je ne pouvais pas écrire ça, ça a été en fait mon mantra quand j'ai voulu faire mes films. Je me suis dit, fuck it, I do it. Et en gros, je me suis dit, je ne peux pas écrire ça. Donc, j'ai commencé à écrire l'acronyme. Ça faisait F, 2 I, D, I. Et quand je l'ai lu, FIDI, ça veut dire en arabe, du coup, entre mes mains. Et du coup, c'est très aligné. Et je me suis dit que c'était vraiment... Et du coup, c'est devenu une façon de voir les choses, une façon de faire. À chaque fois que j'ai fait des films sans budget, je les ai fait en mode FIDI. Au lieu de dire non rémunéré, ben, c'est en mode FIDI. Et sur ma plateforme, par exemple, quand on poste une annonce ou qu'on cherche une annonce qui est non rémunérée, ben, il y a écrit en mode FIDI. On revalorise le non rémunéré.
Tu as fait quoi comme étude?
Alors, j'ai commencé avec des cours d'acting face caméra en Angleterre, où je suis restée 7 ans. Ça s'appelait Acting in front of a camera with the directive of a director. Et du coup, de là, j'ai fait partie des 2-3 élèves qui ont pu suivre en fait, le tournage sur les studios Pinewood.
Les gros studios
où font les James Bond, Harry Potter, etc. Et du coup, ben, en étant dans ces studios, j'ai pu m'intéresser à l'arrière de la caméra. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire mon premier film.
Comment tu passes de Marseille à faire des études en Angleterre d'acting? C'est pas évident, non?
Je suis allée en mode FIDI. déjà, je parlais même pas un mot d'anglais quand je suis partie en Angleterre. Mais je voulais partir là-bas à tout prix. Et ce milieu m'a toujours intéressée. Et du coup, je suis tombée sur ces cours. Et,
tu fais un petit job à côté ou...
Ouais, j'en faisais même 2-3 par période. Après, je les ai tous lâchés parce que j'étais tellement à fond dans les studios. Je restais de 9h à 11h du soir dans les studios là-bas. C'est pour ça que j'ai fait partie des 2-3 élèves qui ont pu suivre le tournage.
De quoi?
Et c'était un long métrage, mais on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de films qui ne sortent jamais. Et c'était un film d'époque un peu dans le style Gladiator 3. Qui devait s'appeler Catherine of Alexandra. On a fait des scènes en studio du coup au Pinewood.
Et toi, t'étais dans la production?
Moi du coup, ouais, je me suis retrouvée dans l'organisation sans être forcément dans la production. J'y étais en bénévole, on va dire. J'étais même pas rémunérée ou quoi. Ouais, en stagiaire.
Tu as créé un festival de cinéma à Marseille pour les films autoproduits, on va dire.
C'est ça, pour les films autoproduits, pardon, ou sans budget. Après, il y a eu des films qui ont eu des mini-prods ou des subventions, comme Malish Malish, qui a gagné du coup le meilleur film pour la première édition du FIDI Festival. Et on a reçu aussi plein d'autres films et tout, qui sont venus d'Angola avec Malef, Le Poisson et le Couteau. On a eu aussi un film d'Inde, de UK, d'Algérie. On a eu vraiment des films de partout dans la France.
Et combien de films projetés?
On en a projeté 11. Et j'ai projeté aussi du coup mon dernier court-métrage, mais en hors compétition bien sûr, parce que je ne peux pas le mettre dans la compète. C'est du coup le film qui m'a donné envie de faire ce festival et l'application. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de festival qui mette en lumière ces films-là. Et généralement, les festivals, ils sont en compétition avec des films qui ont eu beaucoup de budget. Et du coup, c'est normal qu'ils ne vont pas remporter de prix. Donc voilà, c'est pour ça que tourner en mode FIDI, en mode guérilla, tout... Ce système d'approche et tout était intéressant.
Tu as eu le soutien de professionnels qui ont fait des masterclass, qui sont dans le jury. Tu peux nous parler un petit peu de ces personnes?
Oui. Alors, du coup, on a fait des masterclass et tables rondes. On a pu avoir du coup Lasco pour une masterclass, qui est du coup quelqu'un de connu et reconnu du coup dans la région, qui travaille entre autres chez France Télévisions. On a eu dans les tables rondes des cascadeurs, des comédiens, des producteurs, des comédiens autodidactes, d'autres à en devenir comme Nassim Bougazi. En jury,
acteur de Pax Massilia.
De Pax Massilia et de prochainement dans la série Un prophète. Et du coup aussi en jury, qui était composé de professionnels, qui étaient du coup on a pu avoir Aline Zidane, productrice. l'adjoint.
C'est un beatmaker légendaire.
Exactement, qui a travaillé avec tous les plus grands artistes, Jules, Soprano, etc. Comme Camille Lelouch. On a eu Sophie Atlan aussi, qui est une nouvelle productrice aussi dans la région, qui est réalisatrice aussi, qui a fait ses films en autodidacte et qui a autofinancé ses projets. Et on avait aussi Jean-Michel Correa, comédien, du coup, qui a joué dans pas mal de films comme Un prophète, qui a fait lui-même son propre film Sous X et qui a dernièrement écrit un livre En marge. On a eu du coup l'ambassadeur de la première édition, Moussa Maskri, à qui on a remis le prix, le prix d'honneur pour toute l'aide qu'il a pu attribuer aux comédiens et aux jeunes réalisateurs marseillais. Voilà, on n'a pas eu de grosses communications et tout, mais déjà on a eu des gens passionnants qui ont échangé, qui ont créé des réseaux entre eux. Tout le monde soutient une seconde édition, même la mairie et la métropole qui m'ont invité du coup à aller vers eux pour discuter d'une prochaine édition. Mais ouais, c'est une première édition réussie.
Autoproduite, sans financement.
Autoproduite, sans financement. J'ai tout financé. J'ai eu l'aide aussi de personnes telles que Baki, Kevin, même ma famille qui a préparé le buffet cocktail à la fin de la journée. Vraiment, des amis. Vraiment, c'était top.
Tu peux parler un petit peu du contexte marseillais? Tu sens qu'il y a une espèce d'explosion de la jeunesse qui a envie de s'exprimer avec des caméras?
Ouais. La jeunesse, déjà on le voit avec toutes les écoles aussi maintenant et tous les dispositifs qu'il peut y avoir. On connaît Contragemé, il y a Cinéfabrique, il y a Movida, il y a La Réplique, il y a pas mal de structures comme ça qui sont mises en place pour pouvoir justement dénicher de nouveaux talents. Et en gros, avoir un festival comme le Fidi Festival, en fait, ça permettrait d'être un endroit où on pourrait voir leurs œuvres. Regrouper tout ce monde, faire un chassé-croisé entre tous ces différents écosystèmes. Et voilà. Pour résumer tout ça, je pense que c'est un peu une révolution cinématographique. C'est un peu ce que je dis à travers Fidi. En fait, là, on veut mettre un coup-pied dans la fourmilière, bouger les lignes et faire émerger de nouveaux talents, quoi. Je pense qu'on a tous un peu ce feu en nous. C'est juste que pour le moment... Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas mis en valeur et que c'est dommage. En fait, c'est quelque chose de péjoratif pour des professionnels de tendre la main, alors que finalement, en fait, non, il faut l'attendre au lieu d'appeler juste son carnet d'adresse et d'aller vers les mêmes personnes qu'on connaît tout le temps, quoi.
Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours, mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla.
Merci à Jean-Marc Coppola, Naoui Raoussi Jones, Yasmina R. Rafas, Vanessa Vivara Zambernardi, Tarek Bourenan, Samia Zribi, Fares Wafi, Samuel Ali Hadji, Iman Bessahi et Sabrina Nouchi. Chargée de programme, Marivonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau, Emmanuel Laurentin. Épisode 4, Nos vies, nos stories. Une série de Pascal Tessot et Gaël Gilon. Prise de son, Julien Girard. Mixage, Manon Houssin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.
Parce que je t'aimerai pour toujours, mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Il veut pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Je suis plus là si tu me cherches, je suis plus là si elle me cherche, je suis plus là si il me cherche, je suis plus là si tu me cherches, je suis plus là. Elle me cherche, je suis plus là.